les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1940-1944, la résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire, une longue série, diffusée en 1964 sur France Culture, 20 ans donc après la libération de Paris. À la tête de ces rendez-vous quotidiens sur l'antenne en juin et juillet, puis au mois d'août, précisément pour l'anniversaire de cette libération, deux hommes, Stanislas Fumet et Francis Crémieux. Dans l'émission inaugurale, les deux producteurs s'étaient expliqués sur leur démarche. 1940-1944, nous avons pu voir naître cette résistance grâce aux témoignages de celles et ceux qui l'avaient faite, et nous avons pu suivre géographiquement la formation des maquis dans toute la France jusqu'à la libération. Mais la libération de toute la France est loin d'être achevée. Le 19 août 1964, 20 ans après le début de l'insurrection à Paris, était diffusée l'émission que vous allez pouvoir écouter. Chaban Delmas, Rol Tanguy, les premières manifestations annonciatrices, la présence forte de la milice et des Allemands dans la capitale, les grèves de cheminots, partie de Vitry, et puis l'insurrection. Une bataille qui n'est pas classique, les barricades, la lutte contre les chars, la fabrication d'engins incendiaires. Août 1944, Paris se libère, première partie, puis la libération de Paris, la période pré-insurrectionnelle, deux émissions diffusées pour la première fois sur France Culture le 19 août 1964.
Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Blaise Pascal.
La résistance. Témoignages et documents pour servir l'histoire. Une suite d'émissions composées par Stanislas Fumet et Francis Crémieux et présentées par France Culture. Août 1944. Paris se libère. Par Stanislas Fumet, avec la collaboration de Harold Portnoy. Réalisation Paul Ventre. Aujourd'hui, premier épisode.
Une semaine, il y a 20 ans, nous ramenait la liberté. Il a fallu ces 7 jours, du 19 au 25 août 1944, pour nous convaincre que nous étions enfin passés de l'autre côté de l'épreuve, du moins les Parisiens. La France n'avait plus de capitale en métropole depuis 4 ans. Nous l'avons vu se reconstituer à Paris avec une incroyable rapidité. Un certain souffle nous était rendu. C'est qu'un homme libre ne pouvait pas respirer sous l'occupation nazie. Et ce n'était pas d'une invasion seulement que nous allions sortir, c'était aussi et bien davantage de l'ombre d'un destin maléfique à tous égards qui nous eût étouffé si nous n'avions point réagi, si nous n'avions pas résisté. Enfin, nous le tenions, le but de notre résistance. Il avait la couleur de la liberté, la couleur de la France, qui lui est synonyme, de la France des nations, telle que De Gaulle, au-dessus de nous, la voyait, qui ne pensait pas, comme l'imaginent peut-être ceux qui ne l'ont jamais compris, à la France seule, mais bien, au contraire, à la France solidaire des peuples, unie à l'ensemble d'un monde en partie aveuglé, qu'il s'agissait de rééduquer, en commençant par assurer son propre salut. Quand les Parisiens décidèrent de donner le signal de l'insurrection par la voix autorisée de ceux qui avaient démontré qu'ils étaient les vrais représentants de la France, les représentants d'une France qui avait refusé de se laisser écraser et de mourir à sa vocation propre. Les Timorés eux-mêmes, les attentistes, comme on disait, sentirent que c'était vrai, que notre espoir n'avait pas été trompé. Nous ne pensions qu'à elle depuis longtemps, à cette libération. Mais jusqu'au 6 juin 44, on avait le droit de trouver que c'était long, et parfois on s'était demandé si on n'y arriverait jamais. Les derniers mois, les arrestations, les exécutions, les déportations n'avaient cessé de se multiplier. Et puis, contrairement aux prévisions plutôt pessimistes des mieux informés, du jour au lendemain, voilà qu'on parle de déclencher le mouvement d'insurrection. Ce sont d'abord les ordres de grève dans les administrations publiques et les usines. Or, ce ne fut pas facile. La délégation générale et le CPL, le Comité parisien de libération, ne sont pas d'accord. Le CNR, le Comité national de résistance, hésite. Le CPL, dans sa volonté de faire aboutir une politique d'extrême gauche, ce qu'on ne saurait lui reprocher s'il la croit la meilleure, entend précipiter le mouvement au risque toujours possible de laisser mettre Paris à feu et à sang, comme le lui promettait Hitler. Nous avons bénéficié de circonstances surprenantes, inespérées, il faut le dire. En commémorant cette semaine, les témoignages que nous allons réunir les mettront en lumière. Si bien que Paris n'a pas été détruit, ce qui était le risque à courir, qu'il s'est libéré lui-même, ce qui était le rêve des FFI, et naturellement celui du peuple parisien. Nous n'avons pas, au recto de ce livre oral, si l'on peut dire, à étudier le problème strictement politique qui a pu diviser incidemment les groupes organisés. Il apparaîtra au verso du même livre oral dans les propos recueillis par Francis Crémieux. Nous autres, ce sont des témoignages d'individualités agissantes que nous allons faire entendre dès ce soir. On l'a préparé depuis des mois, cette insurrection. Mais c'est en juillet 44 que le déclenchement est sur le point de se produire. Ce fut, je crois, la conviction de la toute jeune fille qui était à l'époque Madeleine Riffaud, cette J3 à figure de Madone pré-raphaélite, qui avait été bouleversée par le drame d'Oradour et s'était jurée dans son âme de venger l'innocence. Pour cette filleule de Jeanne Hachette, l'insurrection avait commencé le 14 juillet. Pourquoi cette date ? Madeleine Riffaud va nous le dire.
Ce jour-là, nous avons sorti nos armes au grand jour, devant le peuple de Paris, en plein après-midi. Nous avions eu l'ordre de protéger les manifestations du Pacifique à l'occasion du 14 juillet. Et nous étions là, Ménilmontant, les armes aux côtés, prêts à nous fondre dans la foule, prêts à les protéger, mais déjà presque libres. Nous devions faire démarrer ces gens. Nous disions, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, qu'il crie, qu'il sorte un drapeau, qu'il chante la Marseillaise. Puis tous, nous chantions très faux. Puis quand on est ému, on chante encore plus faux. Alors un de mes camarades, Baudouin, a eu l'idée, en voyant un brave aveugle, un mendiant, là, qui avait un accordéon, de lui donner 100 balles pour qu'il joue la Marseillaise. Et ce brave homme a joué la Marseillaise. Et cette Marseillaise, jouée par un accordéoniste de Belleville, a déclenché une manifestation extraordinaire, puisque si elle a groupé 60 000 personnes environ dans Paris, sur Belleville, Ménilmontant, il y a eu 20 000 personnes dans la rue ce jour-là. Et c'est ce soir-là que nous avons perdu un de nos grands amis, Yves Toudic, le secrétaire du syndicat du bâtiment, qui a été tué près de la République. Mais enfin, à partir de ce moment-là, nous avions vraiment tâté le pouls de Paris. Nous avons senti qu'il était prêt à se battre, à faire ce qu'on lui demanderait. Et sa fièvre n'a fait que monter. Dans les jours après, il y a eu les grèves des cheminots, des agents de police, de la RATP. Toutes ces grèves qui ont fini par aboutir à une grève générale patriotique qui a paralysé Paris et qui a déclenché l'insurrection. Alors, dans cette période, dans les usines, le principal travail d'une centaine d'ouvriers n'ayant pas d'armes, c'était de fabriquer des crève-pneus par milliers qu'on allait répandre sur les routes. Ça paraît enfantin, mais ça rendait d'énormes services. En même temps, on faisait des raillements des trains. Et puis, alors, toujours faute d'armes, il fallait autre chose. Nous savions que nous aurions les tanks, les tigres à griller. Et nous avons commencé à fabriquer les cocktails Molotov. Je veux dire, enfin, le peuple de Paris, parce qu'il y avait des milliers de gens qui ont fabriqué cette arme. Avec cette bouteille incendiaire, on peut très bien griller un tank. Julio Curie, d'ailleurs, lui-même, en a fabriqué plusieurs centaines. Et puis pour moi, là, il y a eu l'arrestation. J'ai été arrêtée dans le cadre de la campagne intitulée « À chacun s'embauche » et qui visait à multiplier les attentats contre les occupants en plein jour, afin de déclencher l'insurrection. Et aussi, comme en matière de représailles, au massacre d'Oradour, et j'ai été arrêtée un petit peu plus loin que le pont de Solferino, à 3h de l'après-midi, le 23 juillet 44. Je venais d'abattre mon officier allemand, enfin un officier SS, que j'avais abattu fort proprement, et j'ai été arrêtée sur le fait. Mauvaise affaire, évidemment. J'ai été délivrée par l'insurrection parisienne en même temps que le colonel Pimpeau, qui était également condamné à mort. J'ai été délivrée le 18 août. Et ensuite, j'ai repris mon poste de combat. J'ai changé de compagnie à ce moment-là. Et j'ai pu être témoin de l'insurrection telle qu'elle s'est déroulée dans le nord ouvrier de Paris, dans le 19e arrondissement, plus exactement. Mais dans le même temps, nous avons eu 35 très bons camarades, J3 héroïques, tant de la jeunesse chrétienne que des jeunesses communistes et de l'OCM, originaires de Chelles et de Draveil surtout, et qui ont été assassinés au bois de Boulogne. Peut-être connaissez-vous l'histoire, en tout cas, ils ont été assassinés à la grenade par les Allemands de Scholtitz, juste le 18 août, enfin le jour où moi je suis sortie. Ils ont été amenés dans ce guet-apens, justement parce qu'ils voulaient des armes, ils voulaient se battre, et ils n'avaient pas d'armes, et ils se seraient confiés vraiment au diable lui-même pour en avoir. Et quand un homme, suspect bien sûr, est venu dire à ces jeunes de 17-18 ans, « Venez avec moi en camion cette nuit, je vous donnerai des armes », ces jeunes sont partis, ils l'ont cru. Et c'était un traître qui les amenait droit à la Gestapo, et ils ont été tous assassinés. Et c'était dans leur désir de se battre qu'ils n'ont pas été si prudents. Enfin, ils étaient pris par cette fièvre qui prenait Paris tout entier.
Une des figures qui ont dominé l'action insurrectionnelle de Paris est sans conteste celle du colonel Roll Tanguy, officier des FFI. Sachant avec quel bonheur les révolutionnaires espagnols avaient utilisé le système des barrages sur les routes, Roll lancera le 22 août au soir l'ordre de construire dans tout Paris des barricades. C'est le même colonel Roll Tanguy, syndicaliste d'extrême-gauche, qui voudra, le moment venu, apposer sa signature à côté de celle du général Leclerc sur le projet d'acte de capitulation de von Scholtitz, général commandant militaire des forces allemandes dans la région de Paris. Leclerc ne peut pas accepter, étant désigné dans la Convention comme commandant de l'ensemble des forces françaises de Paris. Roll finit pourtant par obtenir gain de cause. Le général Leclerc changera l'en-tête de l'acte, et le nom du chef des FFI précédera le nom du général commandant les forces françaises de Paris. À ce même colonel Roll Tanguy, nous demandons, sur un plan moins élevé, de bien vouloir nous dire un mot des égouts de Paris, où il avait installé son PC. On descendait dans ce souterrain par une porte des catacombes, place d'Enfer Rochereau.
Le PC, on y accédait soit par un ascenseur, mais l'ascenseur n'a jamais marché puisque le courant manquait le plus souvent à Paris. À cette période, il y avait donc un escalier, et puisque nous devions descendre à quelques 30 mètres sous terre pour arriver à une véritable installation qui ressemblait d'ailleurs à celle de la ligne Maginot. Porte blindée, système d'aération, et tout le système d'aération du poste de commandement avait été fabriqué dans une usine de Montrouge, la maison Nessifrère, où j'étais moi-même employé comme ouvrier en 1936. Et une chose des plus importantes, il y avait à l'intérieur un central téléphonique qui n'était pas surveillé par les Allemands, et qui rayonnait dans toute la région parisienne, c'est-à-dire à tous les postes de défense passive. Et cela nous permettait donc, chaque fois que nous apprenions un incident, de vérifier sur place si l'incident était réel et s'il y avait nécessité ou non d'y envoyer des corps-francs motorisés qui se trouvaient toujours à la disposition de l'état-major. C'était un service auquel les Allemands ne prêtaient que peu d'attention. Un peu quand même, puisque la surveillance de ces installations était placée sous la responsabilité d'un major allemand qui avait l'habitude, depuis je crois un an ou deux, de téléphoner tous les matins au gardien de cette installation, et le gardien lui répondait, alors que nous étions là en plein travail, qu'il n'y avait rien à signaler. C'était un petit peu la minute cocasse de la journée, on attendait le coup de téléphone de l'officier allemand. Nous avons vécu uniquement sur un ravitaillement de fortune, c'est-à-dire un franc-tireur nous a ramené des plaques de lard, des pommes de terre, et ça a été notre ordinaire pendant toute l'insurrection. Agrémenté, je dois le dire, d'un verre de bénédictine, puisqu'en même temps que ce ravitaillement nous parvenait, également quelques caisses de ces bouteilles de liqueur, Ce qui fait que le déjeuner terminé sur un petit verre de bénédictine, ma foi, ça faisait passer le précédent.
Monsieur Roltangui, vous voulez me dire qu'à aucun moment aucun Allemand n'est venu vous inquiéter ?
Non, à aucun moment, pour la bonne raison, nous avions pris des mesures de sécurité et les officiers ou les agents de liaison devaient d'abord se présenter à la gare de Sceaux. Le métro de la ligne de Sceaux, qui est distant du PC d'environ 100 mètres. Là, les renseignements étaient reçus, recoupés, et un seul officier était habilité, autorisé à venir de la gare de Sceaux jusqu'au PC lui-même. Ça réduisait donc singulièrement les allées et venues, et c'est pour cela d'ailleurs qu'à un moment donné, c'est le lundi, quelques chars allemands sont venus rôder autour du PC, sans doute se doutaient-ils de quelque chose. Mais en vérité, nous n'avons pas été inquiétés un seul instant et le travail de l'état-major a pu se poursuivre avec toute la tranquillité nécessaire. La vie quotidienne était une vie assez fiévreuse parce qu'il y avait constamment des études à faire, des textes à rédiger, des comptes rendus à éplucher, des renseignements à transmettre. La vie là-dedans était un peu comme dans une ruche en plein travail. Et cette action, d'ailleurs, se poursuivait aussi bien de jour que de nuit. Par conséquent, quand le personnel de l'état-major est sorti le 25 août du poste de commandement, il passait d'un monde dans un autre, du monde souterrain à la vie normale. Et nous avons d'ailleurs rejoint le 25 août un autre PC qui communiquait avec des souterrains, avec celui d'enfer, rue des Feuillantines, au coin de la rue Gay-Lussac. On peut donc dire que de bout en bout, ces souterrains de Paris ont été reliés à l'action des FFI aussi bien dans la bataille que dans la victoire.
On vous prête une phrase, tous aux barricades.
Oui, c'est-à-dire qu'une insurrection, ce n'est pas une bataille ordinaire. Et nous, notre souci, c'était de souder complètement l'action des forces françaises de l'intérieur à celle de toute la population. D'autre part, pour ériger des barricades, pour lutter contre les chars, eh bien, nous avons pris des dispositions qui s'adressaient à toute la population. Comment fabriquer des bouteilles incendiaires? Comment faire des barricades? Comment lutter contre les chars? Non seulement des instructions étaient données aux combattants, mais également à toute la population. C'est ce qui différencie une insurrection d'une bataille, de caractère classique.
Les barricades, c'est le geste de Paris. Se faire tuer sur les barricades, quoi de plus typiquement républicain? Comment ne pas penser à la belle toile de Delacroix, la liberté sur les barricades? La police de Paris, en répondant par 97% de ses effectifs à l'ordre de grève, a beaucoup facilité la tâche du peuple insurgé contre l'ennemi qui avait toujours compté sur elle pour faire observer l'ordre dans le gros Paris. Le jour où les policiers se furent débarrassés de leur uniforme, ils ne se reconnurent plus eux-mêmes. Ils étaient devenus des républicains convaincus et des résistants courageux. Il fallait avant tout, pour les forces de la résistance, s'emparer de la préfecture de police. Ce sont des résistants appartenant à cette police qui se chargeront de l'opération. Monsieur Clément Roicot était gardien de la paix. Lui-même était un des hommes du CPL, le Comité Parisien de Libération.
Nous avons donné rendez-vous à 6h du matin à tous nos mouvements à la préfecture de police. Certains groupes sur le boulevard Saint-Michel, d'autres groupes dans le jardin Notre-Dame, d'autres groupes place de l'Hôtel de Ville, le Châtelet, les quais, les Tuileries, le Louvre, tant et si bien que nous avions à peu près tout l'effectif des gens qui voulaient participer à ce moment-là à la grève insurrectionnelle.
Combien étiez-vous environ ?
Nous étions à peu près un millier sur le parvis Notre-Dame lorsque nous avons décidé l'attaque. Le groupe qui était désigné pour l'arrestation du préfet de police Bussière a fait son opération en deux temps. Il a commencé par envahir le cabinet et ensuite il est allé aux appartements. À ce moment-là, nous n'avons pas osé prendre l'ascenseur. Nous y sommes descendus à pied et ma foi, nous avons frappé. On est venu nous ouvrir. On est rentré et c'est là que nous avons pris le préfet de police au lit, avec Madame Bussière. Le préfet a été très surpris, il nous a déclaré qu'il était aussi résistant que nous, qu'il fallait qu'il reste à la tête et qu'il prendrait la tête du mouvement. et qu'il fallait à tout prix sauver la France et qu'il n'avait toujours pensé qu'à la France. Nous lui avons dit simplement, monsieur le préfet, l'époque n'est plus au discours, vous nous appartenez et vous nous suivrez. Quatre autres se sont rendus au cabinet du préfet. Les gardes républicains qui étaient là à l'époque nous ont dit « Bon, c'est d'accord, vous assurez notre relève. » Et ma foi, tout s'est très bien passé comme ça. Une fois qu'ils ont été rassemblés dans la cour carrée, il y avait des réparations à l'époque dans la cour de la cité. Nous en avons fait un podium et nous avons déclaré que c'était de l'insurrection, que nous prenions la préfecture de police. À ce moment-là, nous avons ouvert les portes et tout le monde est rentré à l'intérieur. Et c'est là qu'on a levé le drapeau tricolore pour la première fois. Et aussitôt après, nous avons été mettre le drapeau tricolore sur le palais de justice.
Monsieur Moniaud, quant à lui, était bien placé à la préfecture ce même 19 août, entre 3 et 5 heures de l'après-midi, pour assister, des fenêtres du quai du Marché Neuf, à l'attaque des camions allemands sur lesquels tiraient les agents de la préfecture.
Nous avions une mitraillette pour quatre. J'étais dans la tour d'angle de la préfecture de police qui est juste en face du petit pont. Il y a un de mes anciens garçons de bureau qui se trouvait là qui m'a dit, ben patron, prenez donc la mitraillette. Il y avait un camion qui arrivait, j'ai dit, moi je vais le rater. Il a conservé une mitraillette, c'est lui qui a tiré, j'ai vu la glace du camion s'étoiler, ça je l'ai vu de mes deux yeux. Le camion faire encore quelques mètres, puis finalement buter de la roue gauche avant dans le trottoir, s'arrêter. Le camion a pris feu, les occupants qui n'avaient pas été blessés sont sortis, sont enfuis derrière le square Rony Viviani, et on leur tirait dessus de la préfecture, et j'ai vu cet incident extrêmement curieux, et on tirait trop bas. Alors les gens sautaient comme s'ils dansaient pour éviter les balles qui allaient dans les jambes. Ils n'ont pas été touchés. Ils ont été cueillis 5 minutes après par un groupe de résistants d'APP qui sont venus les cueillir sur le quai. On a commencé à dépaver tout autour de la préfecture puisque la préfecture était vraiment le centre de l'action. Je crois que la barricade de la rue Huchette était la première barricade édifiée avec des pavés. Alors la place Maubert s'est ruée sur la Huchette. Il y avait un tas de gens. Il y avait des boiteux, il y avait tant de gens, c'était tout à fait pittoresque. Mais ils étaient en bras de chemise, ils avaient des armes de toute espèce, des fusils de chasse, des fusils de guerre, enfin ce qu'ils avaient pu ramasser. Je dois dire d'ailleurs qu'à la fin de la journée, la préfecture distribuait des armes. Le but de l'opération, c'était ça, c'était d'avoir les armes, comprenez-vous. À la fin de la journée, vers 5 heures de l'après-midi, il y avait un tas de fusils, un tas de mitraillettes qui avaient été récupérées, qui étaient distribuées un peu dans tous les sens, comme on pouvait d'ailleurs, comme on pouvait, il n'y avait pas d'ordre pour distribuer. La cour de la préfecture, à 5 heures d'après-midi, le 19, était un spectacle extrêmement pittoresque. Il y avait des gens en civil, tous les gardiens étaient en civil, tout le monde était en civil. Il y avait un sergent noir, dont je ne sais plus le nom, qui faisait beaucoup de travail, en uniforme. Et il y avait déjà des cadavres d'Allemands, quantité qu'on avait ramené. Je me souviens d'un cadavre qui était sur un brancard roulant, les pieds pendants et la tête en arrière, plein de sang. On ramenait des blessés, c'était un spectacle absolument extraordinaire. Les gens le bras en écharpe, il y avait des blessés parmi nous. C'est-à-dire que dans tous les sens, ça rentrait, ça sortait, de tous les côtés. Il y avait une animation extraordinaire, les gens étaient heureux, parce que malgré ce spectacle sanglant, c'était absolument sanglant, il y avait une joie générale, un enthousiasme profond. J'ai fait la guerre à plusieurs reprises, j'ai fait celle de 14 en particulier, j'ai fait celle de 39 aussi, mais j'ai jamais vu des combattants avoir un tel moral à 5 heures d'après-midi du 9 août.
Tout cela, cette excitation joyeuse, ce danger, ce sang répandu, c'est le 19 août. À la même date, les journaux étranglés décident de reparaître. Mais comment et où les imprimer? Il faut s'emparer de la grande imprimerie de la presse, bâtie autrefois par Léon Belby pour son intransigeant, sans rurer au mur. C'est là que tournent les machines pour le Pariser Zeitung. Tel est le point de mire des journalistes de la Résistance. Ils se rencontrent dans un petit bar de la rue d'Antin quand ce n'est pas ailleurs. Nous questionnons Georges Hatschuller de Combat, du combat d'Albert Camus, de Pascal Pia et d'Albert Olivier.
Ce jour-là, nous nous sommes réunis avec les dirigeants de Franc-Tireur, les dirigeants de Défense de la France, ainsi que les dirigeants de Combat, dans l'arrière-salle d'un petit café rue d'Aboukir, où nous avons mis la dernière main à toutes les dispositions que nous devions prendre pour entrer dans cet immeuble du centre de la rue Réaumur où se trouvait la Pariser Zeitung. Et nous nous sommes répartis les étages. Nous, Combat, nous étions au 5e étage. Or, au 5e étage, il y avait effectivement toute la rédaction de la Pariser Zeitung, mais elle était déjà partie. La seule chose que nous ayons retrouvée, c'était des papiers qui jonchaient le sol, et puis aussi quelques caisses de munitions que nous nous sommes empressés d'aller porter à la préfecture de police pour aider les agents qui s'y étaient réfugiés. Le même soir, il y a eu une sorte de table ronde qui a eu lieu à Combat même entre Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert. Et alors, inutile de vous dire que la conversation allait bon train et que nous avons discuté sur la situation. Et pendant ce temps-là, nos braves FFI étaient là, qui nous gardaient et qui étaient prêts à nous défendre si le cas s'était présenté.
Bien entendu, vous avez aussi fait le journal, je pense.
Eh oui, bien sûr. Et c'était très curieux, car je dois dire que ça s'est passé à la bonne franquette, dans la mesure où chacun d'entre nous regardait sur le marbre de son voisin. À ce moment-là, il n'y avait pas de concurrence à proprement parler. Et j'ai vu, par exemple, Georges Altman lire le premier éditorial d'Albert Camus, qui n'était pas encore signé. On l'avait mis tout en commun.
Ça, c'était le 19 août. Et les jours qui ont suivi ?
À ce moment-là, j'ai repris mon métier. Je laissais Pascal Pia, Albert Camus faire le journal. Alors moi et d'autres, des jeunes gens, nous sommes partis faire des reportages à travers Paris. Paris qui n'était pas encore libéré. Et alors c'était assez extraordinaire parce que les premiers journaux paraissaient au grand jour. C'était des titres comme Libération, comme Défense de la France, comme Franc-Tireur, comme Combat. Ces journaux paraissaient au grand jour et étaient vendus au nez et à la barbe des Allemands. Et nous autres, qui étions à ce moment-là des reporters et qui avions pour mission d'aller à travers Paris pour montrer comment les Allemands occupaient encore Paris. Par exemple, je suis allé à la préfecture de police. J'ai eu beaucoup de mal à y entrer car les chars tigres allemands tournaient autour de la préfecture de police, tiraient. À certains moments, c'était assez dangereux. Car, par exemple, pour traverser la place de l'Opéra, là où se trouvait la Hauptkommandantur von Grosse-Paris, pour passer, il fallait passer très vite car la place de l'Opéra a été prise en enfilade par des mitrailleuses allemandes qui tiraient dès qu'elles voyaient quelque chose. Je devais aller sur les Champs-Élysées, toujours à pied, bien sûr, car les bicyclettes, les Allemands nous les enlevaient. Et je me souviens, j'arrive près de la Concorde, il y avait un barrage, un contrôle d'Allemands. Et ils me demandent les papiers. Et j'ai montré une carte sur laquelle il y avait marqué « Journaliste, combat ». Et je suis passé comme ça.
Quand sortent les quotidiens, puis les hebdomadaires, et qu'ils passent sous le nez des Allemands, à peine surpris, car ils ont d'autres soucis que celui de voir des Français se réjouir pour des choses où eux-mêmes n'entendent rien, on se dit qu'un nouveau monde est en train d'éclore. Mais que sera-t-il ?
La résistance racontée par ceux qui l'ont faite, par Francis Crémieux, assisté de Gilbert Maurice Duprez. La libération de Paris. Aujourd'hui, la période pré-insurrectionnelle.
Nous avons demandé à 8 des dirigeants de l'insurrection parisienne qui, du 19 août au 25 août 1944, libéra la capitale de la France, de venir nous dire ce que fut cette insurrection. Ce sont messieurs Alexandre Parodi, commissaire du gouvernement provisoire d'Alger en France occupée, monsieur Jacques Chaban-Delmas, son adjoint délégué militaire national, le colonel Roltangui, chef de FFI de l'Île-de-France, trois membres du comité parisien de libération, monsieur André Tollet, qui en était le président, monsieur Léo Hamon, monsieur André Carrel, Monsieur Pierre Villon, qui était président du COMAC, qui était l'organe d'action militaire du CNR, et le commandant Gallois, qui était chef d'état-major du colonel Roltangui. En écoutant leurs témoignages, vous comprendrez très vite que ces ouvriers, ces grands bourgeois, ces professeurs, ces avocats avaient une seule et violente passion, celle de la liberté, une seule volonté, celle de chasser l'Allemand. Monsieur Jacques Chaban-Delmas, vous étiez délégué militaire national, c'est-à-dire le trait d'union entre la résistance française et Londres. Alors, après le 6 juin, vous deviez en savoir des choses sur les plans, sur la stratégie alliée et sur le moment où l'insurrection devait éclater.
En vérité, on ne savait pas grand-chose sur les plans alliés. Nous ne savions rien au moment du débarquement sur la manière dont les alliés comptaient avancer. Vers le début de juillet, nous sommes nous-mêmes parvenus à la conviction que les plans alliés consistaient à déborder Paris par l'Est et par l'Ouest, de telle manière que les troupes allemandes soit amenée à évacuer Paris d'elle-même, sous la menace d'une tenaille qui se refermerait au nord de la capitale, de manière à éviter, à Paris, de connaître le sort que Varsovie, à ce moment-là, venait de subir. Voilà pour ce que nous savions des plans alliés. Pour ce qui concernait l'insurrection parisienne, je dois dire que nous n'en connaissions rien, pour la raison qu'au mois de juin, au mois de juillet, il n'était pas question d'une telle insurrection, à laquelle d'ailleurs personne n'aurait songé à ce moment-là, ni à plus forte raison, avant le débarquement. L'insurrection étant liée, sinon l'arrivée du moins, à l'approche des troupes alliées.
Vous ne pensiez pas que d'autres que vous, ayant une autre vue de la situation, déclencheraient une insurrection armée à un autre moment que celui que vous pensiez le meilleur?
C'est bien parce que j'ai pensé que d'autres hommes pouvaient déclencher une telle insurrection trop tôt, car le problème qui s'est posé entre ces hommes et moi, entre ces hommes et nous, qui étions les représentants directs du gouvernement provisoire de la République, c'est-à-dire le gouvernement de Gaulle, a été non pas un problème de principe, car sur le principe de l'insurrection, personne ne discutait. Il y avait même une phrase du général de Gaulle qu'il n'y avait pas de libération sans insurrection. Donc sur le principe, il n'y avait pas de divergence, il n'y avait plus forte raison d'opposition. Mais sur l'application du principe, il y avait, et l'expérience a prouvé que la divergence était sérieuse. Par bonheur, tout s'est bien terminé. Nous pensions, nous, et c'était d'ailleurs conforme à l'esprit des instructions que nous avions reçues. Je dis bien à l'esprit parce que dans les instructions, rien n'avait visé de façon très précise et très claire la situation telle qu'elle s'est présentée au début d'août ou à la fin juillet 1944 pour Paris. Il nous paraissait conforme à cet esprit que l'insurrection éclata vraiment à l'approche des armées alliées. Autrement dit, le risque que nous étions prêts à admettre pour Paris, aussi bien la ville que la population, ce risque était un risque calculé et que nous avions tendance à calculer au plus juste, c'est-à-dire entre 12 et 24 heures. Et c'est bien parce que fin juillet, nous avons eu cette double conviction, d'une part, de ce que les plans alliés étaient un plan d'encerclement qui devait faire tomber par évacuation les défenses allemandes et permettre de libérer Paris vers la mi-septembre. Et d'autre part, qu'il y avait dans la résistance à Paris des éléments qui, en fait, étaient largement les FTP, qui, eux, du fait de cette différence d'appréciation sur les délais supportables entre le déclenchement de l'insurrection et l'arrivée des troupes, risquaient fort de déclencher une insurrection, à mes yeux, à nos yeux, prématurée et, disons-le, très dangereuse. C'est pour cela que vers la fin juillet, devant l'insuffisance évidente de nos moyens de transmission, en accord avec Alexandre Parodi, qui était mon chef direct, puisqu'il avait l'ensemble des pouvoirs civils et militaires, je suis parti pour Londres, afin d'essayer d'obtenir la modification des plans alliés.
Quand vous arrivez à Londres, où vous restez au moins 15 jours, puisque la date de votre retour, c'est le 16 août.
Oui, j'ai dû rester une dizaine de jours à Londres. J'ai mis du temps à y aller.
Vous avez des contacts avec le général Koenig, avec l'état-major des forces françaises combattantes ou de l'intérieur.
Et les Américains et les Anglais.
Et alors, quel est le contenu de ces entretiens?
Je plaide à ce moment-là que l'insurrection à Paris peut se déclencher d'un moment à l'autre et que si nous nous trouvons avec l'insurrection à Paris et les armées alliées à 3 semaines d'entrée dans Paris, alors elles entreront dans Paris sans doute, mais entre Paris et Varsovie, il y aura que des différences de détails.
Ah, je comprends maintenant pourquoi dans de nombreux ouvrages je vois cette référence à Varsovie. Seulement cette référence à Varsovie, elle date du début du mois d'août, alors qu'on la met souvent dans votre bouche au 20 août ou au 22 août, c'est-à-dire pendant l'insurrection.
Non, mais j'en ai parlé. Je n'ai parlé que de ça, vous savez, à Londres.
Pendant les 10 jours que le général Chaban-Delmas passa à Londres, des événements très importants se déroulaient à Paris. Le colonel Roll-Tanguy est sans aucun doute l'homme le mieux qualifié pour répondre à la question « À partir de quand avez-vous cru à l'insurrection ?
L'appel à l'insurrection, pour nous, était une idée permanente. Déjà depuis 1943, nous y pensions, mais nous nous situions dans la réalité, c'est-à-dire, nous ne bâtissons pas des plans à l'avance, mais pour nous, il s'agissait d'abord d'aider au maximum au succès du débarquement et ensuite de mobiliser en profondeur la population. Et c'est pour cela qu'à côté des unités militaires, des différents mouvements de résistance groupés dans les FFI, nous poussions également un effort particulier en direction des usines pour préparer les milices patriotiques qui viendront renforcer les forces militaires de la résistance. Pour nous, l'idée était d'éviter à tout prix le combat singulier entre l'armée allemande et les FFI. Nous disions, le succès est fonction du nombre. Il est certain que pour obtenir cette mobilisation en profondeur, nous touchons là tout ce qui avait trait à l'activité politique de la résistance. Et l'organisme chargé justement de réaliser ces tâches était le Comité parisien de libération, avec lequel j'étais en contact permanent.
Comment se posait pour vous la question des effectifs et de l'armement ? Qu'est-ce que vous aviez comme arme ?
Les effectifs. D'abord, j'avais comme effectif recensé pour les quatre départements Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne-et-Oise, 60 000 hommes. Et les états que j'ai sous les yeux indiquent 1750 hommes armés. Mais ici, il faut ouvrir une parenthèse. Il s'agit là uniquement des forces FFI. Et il y avait également dans la région parisienne ce que on appelait les forces gouvernementales. Je précise, la police, la gendarmerie, la garde républicaine et même les sapeurs-pompiers.
Nous sommes toujours le 31 juillet, mon colonel. Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez que l'insurrection va être possible ?
Ce n'est que vers le début août que nous commençons à donner des ordres où nous parlons vraiment de l'organisation de l'insurrection. Par exemple, voici un ordre du 7 août 1944. Je lis rapidement les quelques lignes d'introduction et nous lisons que l'offensive alliée se développe avec rapidité en Bretagne et que déjà ses pointes se tournent en direction du bassin parisien. La caractéristique principale de l'offensive alliée est que la Wehrmacht se trouve hors d'état de lui résister sur le théâtre actuel des combats et j'ajoutais, pour la région parisienne, rien de sérieux n'indique que l'ennemi y ait décidé une résistance à outrance. Cela provenait déjà de l'analyse des bulletins de renseignement que nous recevions. Mais tout ceci dit, l'offensive alliée, la situation matérielle et morale dans laquelle se trouvait l'armée allemande, et les événements qui avaient présidé au 14 juillet à Paris, où du 1er au 14, huit grandes manifestations avaient vu défiler et manifesté dans la rue des centaines de milliers de Parisiens, des dizaines de milliers plus précisément, tout cela nous prouvait que nous étions à la veille de l'insurrection dans la région parisienne.
Cependant, dans les premiers jours d'août, vous ne pouviez pas écarter la possibilité d'une résistance allemande dans Paris.
Nous n'en étions pas sûrs, et c'est pour ça d'ailleurs que nous insistions pour que l'action de la résistance garde encore le caractère de la guérilla et du harcèlement. Tout cela pour suivre au plus près non seulement la nécessité de gêner au maximum les mouvements de l'armée allemande, de lui porter les coups les plus durs, mais en même temps pour que la combativité de toute la population suive une marche ascendante et nous permette, le moment venu, de réaliser cette mobilisation de masse sans laquelle nous ne pourrions pas faire face à l'Allemand et finalement le battre.
Je dois dire que cette date du 8 et 9 août a chez l'ennemi une certaine importance. C'est à 8 heures du soir, le 9 août 1944, que le général von Scholtitz est venu prendre son commandement, ayant vu Hitler le 7 août.
En effet, je crois que ces dates 7, 8 et 9 constituent une sorte de tournant pour la situation dans la région parisienne. Nous sentions que les événements allaient se précipiter. Le 8 août, je recevais d'ailleurs une lettre de Charles Tillon, commandant en chef des francs-tireurs et partisans, me donnant l'assurance que je pouvais compter sur les FTP de la région parisienne comme étant la troupe des FFI. Et il terminait sa lettre en me disant d'ouvrir aux alliés la route de Paris. Cette tâche doit être considérée comme une tâche militaire et coordonnée avec l'avance alliée. Je dois dire que jusque-là, les nécessités de l'action clandestine, d'éviter au maximum les pénétrations policières, les problèmes d'action, tout cela faisait que les mouvements avaient encore en main leurs propres troupes.
Et à ce moment-là, vous ignoriez peut-être que les plans stratégiques d'Eisenhower ne prévoyaient pas une pénétration dans Paris, mais au contraire de contourner Paris.
Je l'ignorais, je dirais, en tant qu'information officielle, mais il était facile de suivre sur la carte la progression des armées alliées pour voir l'intention du commandement.
De quel armement disposiez-vous au début d'août pour cette mission?
Eh bien, l'armement était naturellement de l'armement léger et en quantité insuffisante. C'est pourquoi, à une nouvelle reprise d'ailleurs, je me tournais du côté de la délégation militaire et j'attirais son attention sur la situation de la région parisienne du point de vue de l'armement. Non seulement nous avions des troupes à armer, mais également, je le soulignais, mes difficultés pour assurer pleinement la protection de tous les points vitaux de la région parisienne, eau, gaz, électricité, télégraphe, téléphone, transport, etc. Et du fait du non-armement, la population parisienne risquait le pire de la part des troupes allemandes qui reflueraient inévitablement.
Quelle réponse avez-vous eue?
Négative. Et pratiquement, nous sommes arrivés à la veille de l'insurrection avec l'armement qu'entre-temps nous avions récupéré par des actions contre l'armée allemande. Tout cela n'allait pas bien loin. Mais tout de même, je pensais à l'armement qui était détenu par ces forces dites gouvernementales et aussi par des groupes qui avaient réussi à s'armer, ça et là. Mais en tout cas, j'attirais l'attention du délégué militaire national sur des parachutages qui avaient eu lieu dans les environs de la région parisienne et sur la nécessité que cet armement soit acheminé sur Paris le plus vite possible.
Monsieur Léo Hamon, vous avez été un de ceux qui avait lancé l'appel à l'insurrection. Il fallait tout de même savoir si cet appel était lancé au bon jour, un jour trop tôt, un jour trop tard. Dites-nous comment les choses ont mûri pour vous dans cette période.
Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Le sentiment d'une écrasante responsabilité. Parce que nos devoirs n'étaient pas simples. D'un côté, il y avait le souci de se battre. Et puis, il y avait aussi le sentiment que la France serait tout entière jugée sur ce qui se passerait à Paris et qui serait nécessairement le plus voyant. Par conséquent, nous écrivions un peu non seulement le témoignage de notre ville, mais encore le témoignage de notre pays. Nous avions tous, mais j'avais moi tout particulièrement, le souci de ne pas voir la France spectateur bénéficiaire d'un combat livré par d'autres. Et en même temps que ce souci, il y avait celui de ne pas risquer une boucherie superflue. Parce que, compte tenu de la concentration de la population parisienne, nous exposions dans le combat les femmes, les enfants, et puis, il faut bien le dire, tout le patrimoine culturel que constitue Paris.
Voilà l'exposé des motifs. Avec le bureau du CPL et le colonel Roll, vous votez le principe de l'insurrection.
Il faut tout de même remonter un petit peu plus haut. Il y avait, à l'intérieur du comité parisien de libération, disons, deux préoccupations. L'une des préoccupations qui était celle de nos camarades communistes, qui était de déclencher le plus tôt possible l'insurrection. Et il y avait une autre préoccupation qui consistait à ne donner l'ordre d'insurrection qu'à partir du moment où aurait été rempli un certain nombre de conditions militaires tenant à une suffisante approche des troupes alliées de Paris. Je reconnais qu'il a pu y avoir, à ce sujet, à diverses reprises, des tensions. Et c'est dans ces conditions que se situe la réunion du bureau du CPL dont vous me parlez. Il s'agit à ce moment, pour moi, de savoir s'il est déjà temps de lancer le mot d'ordre d'insurrection compte tenu du double souci qui m'animait. Tollé, Carrel, Rigal étaient pour le mot d'ordre immédiat de l'insurrection. Ça ne nous changeait pas, ils tenaient sur cette position depuis au moins 15 jours. Et c'est au cours de cette discussion que nos collègues communistes du bureau, nous ayant menacés de donner le mot d'ordre d'insurrection en leur propre nom, si nous ne nous y associons pas dès à présent, j'ai posé au colonel Roll qu'on avait invité là, la question, mais combien avez-vous donc d'armes pour proposer le mot d'ordre de l'insurrection dès à présent ? Roll a donné des chiffres qui étaient de l'ordre de 600 armes, et j'ai dit, cela me paraît un peu faible pour lancer un mot d'ordre d'insurrection. Et nous nous sommes alors séparés, ayant adopté le principe du mot d'ordre d'insurrection. Bien sûr, on l'avait adopté, ça faisait des semaines qu'on l'avait adopté, mais n'ayant pas pris position sur le point de savoir si on donnait maintenant l'ordre, et c'est le lendemain qu'a eu lieu la réunion du Comité parisien de libération et du Conseil national de la résistance, où a été prise la décision d'ordre d'insurrection.
On peut le dire, le CPL est à l'origine de cet ordre d'insurrection. Qu'était le CPL ? C'était une assemblée assez lourde, dans laquelle étaient représentés tous les mouvements de résistance, l'Union des syndicats et les forces de la résistance parisienne. Mais elle ne se réunissait pas régulièrement, car elle était trop nombreuse. C'était son bureau, composé de 6 membres, à l'image du bureau du CNR, qui faisait fonction d'autorité exécutive. C'est à son président, André Tollet, que je voudrais demander maintenant comment, pas à pas, le CPL a mis en place le dispositif qui devait aboutir à la nécessité de l'insurrection.
À partir du 6 juin, plus qu'avant, le CPL s'est efforcé de montrer la possibilité et l'utilité du combat. Ses premières tâches ont été, vers cette époque, au-delà des FTP et autres groupes qui s'étaient unifiés dans les FFI, l'effort a été porté vers la constitution de milices patriotiques, organisation plus large, tendant à grouper l'écrasante majorité des hommes valides dans une entreprise, par exemple, ou dans un quartier. Il faut dire que c'était plus facile dans une entreprise que dans un quartier, on se connaît mieux. Ces groupements n'étaient pas encore armés pour la plupart, et la perspective était uniquement déjà de prendre tous ceux qui avaient plus ou moins participé à la résistance, tous ceux qui étaient pour la résistance, et on se connaît suffisamment dans les entreprises, dans les magasins, dans les bureaux et dans les usines, pour savoir de qui il s'agissait, et là, on organisait des groupes de combat.
Votre perspective, c'était l'insurrection nationale et la grève insurrectionnelle.
Absolument. Chacun sentait bien qu'il fallait avant tout miser sur l'effort de la classe ouvrière, donc sur la grève générale comme élément décisif. L'objectif du CPL et l'objectif de l'Union des syndicats était de développer la lutte de masse. Nous n'avons jamais pensé que seulement quelques petits groupes armés pouvaient affronter l'ennemi. Ça aurait été ridicule, surtout dans les conditions d'un tel armement. L'ennemi ne pouvait être submergé que par un énorme mouvement de masse qui devait en premier lieu partir des entreprises. Le courant était créé depuis déjà quelque temps. L'idée se développait que l'on pouvait utilement se battre. Ça a été une grande victoire idéologique. Le 1er juillet, une grande manifestation s'est déroulée. Elle tournait autour de la porte Saint-Denis et elle est allée jusqu'au boulevard Magenta. Là, une Marseillaise énorme, d'ailleurs, s'est élevée, qui a été reprise tellement elle avait de l'ampleur, à la gare de l'Est, par les gens qui s'y trouvaient. Et un militant de la résistance a pris la parole, surtout pour montrer que le pavé de Paris, malgré la milice et les troupes allemandes, le pavé de Paris pouvait appartenir aux Parisiens. C'était la démonstration que l'on était assez fort pour faire quelque chose qui devait déboucher sur la lutte armée.
Est-ce qu'il y avait eu un appel ou bien c'était les militants de la résistance qui, de bouche à oreille, avaient monté la chose ?
Ce n'est ni l'un tout à fait, ni l'autre tout à fait. En réalité, c'était surtout des entreprises, parce que c'est là qu'on peut plus facilement rassembler des gens, que les militants de la résistance mobilisaient, des travailleurs, des employés, etc., et aussi des quartiers, des groupes de résistants rassemblaient des gens et leur donnaient rendez-vous. Bien sûr, on ne donnait pas de tracts, appelant à la manifestation parce que, avant nous, il y aurait eu les troupes allemandes et la police.
Si je vous ai posé la question, c'est parce que la manifestation du 14 juillet, elle, a été préparée par un appel de tract.
Effectivement. Et c'est parce qu'il y avait déjà un climat beaucoup plus élevé, c'est parce que l'on était sûr d'un plus grand succès alors que le 1er juillet, c'était encore problématique, mais le 14 juillet, nous sentions déjà les possibilités plus grandes et nous avons lancé un appel de tract. D'ailleurs, la caractéristique de cette manifestation, c'est que la police était là. Il y avait un détachement d'hommes en armes qui protégeait la manifestation. Et c'était la première fois qu'un détachement, l'arme apparente, protégeait une manifestation. C'est aussi la première fois que les manifestants ont crié « la police avec nous ».
Et c'est aussi peut-être la première fois que la police n'a pas réagi violemment.
La police ne s'est pas mise avec les manifestants, mais elle a refusé d'obéir à ses chefs.
Alors, la conclusion qu'a tirée le bureau du Comité parisien de libération de ces faits?
C'est que la température montait, qu'on pouvait aller plus loin. Mais le même jour, un autre événement d'une importance aussi grande, mais qui a eu des répercussions et des suites beaucoup plus importantes, c'est une manifestation du 14 juillet, partie du dépôt de cheminots de Vitry. On peut dire que c'est de là qu'est partie, en fait, la grève des cheminots du 10 août. On peut dire donc que c'est de Vitry qu'est parti tout ce qui a permis le déclenchement de l'insurrection. Les cheminots ont manifesté jusqu'à Choisy-le-Roi à la statue de Rouget de Lille. Là, ils ont été interceptés par la police et par les Allemands. Il y a eu des arrestations. Il y a eu aussi un certain nombre de blessés, je ne sais pas combien. Et c'est sur la lutte pour la libération de ces militants arrêtés que l'agitation s'est développée. Les exigences qui étaient mises en avant par les cheminots n'étaient pas la libération de tous les cheminots arrêtés, mais seulement de ceux arrêtés ce 14 juillet. Et on a réussi à transporter cette exigence sur les autres réseaux. Si bien qu'en même temps, la température montait dans l'ensemble des réseaux.
J'ai l'impression à vous entendre parler que c'est beaucoup plus le secrétaire de l'Union départementale clandestine qui parle que le président du CPL.
C'est évident, parce que l'insurrection parisienne a été avant tout une chose populaire, grâce à la classe ouvrière. C'est elle qui a joué le rôle décisif dans cette affaire. Les cheminots ont donc commencé cette bataille pour la libération des emprisonnés. Mais rapidement, parce que nous avons l'expérience des luttes ouvrières, rapidement, on a étayé cette exigence par des revendications syndicales. Et immédiatement sont venues des revendications comme le ravitaillement, les rations de force. Il y avait des répartitions de pâtes alimentaires, il y avait, je me rappelle, des répartitions de confitures, et il y avait l'augmentation des salaires. Et c'est sur ces bases que le mouvement s'est développé partout. Et la grève du 10 août n'avait pas comme mot d'ordre l'insurrection. Mais chacun savait bien qu'en définitive, il s'agissait de lutter contre l'Allemand. De même que dans la manifestation du 14 juillet à Belleville, on a crié du lait pour les gosses, on a crié du pain, mais rapidement, on a crié Laval au poteau, Pétain au poteau. Il faut dire que cette grève a été une grève très difficile au départ. La grève des cheminots du 10 août a été un événement militaire de grande importance. Il n'y a pas un seul bombardement qui était capable d'arrêter les chemins de fer sur cette plaque tournante qu'est Paris et gêner le transport des troupes d'une façon aussi magistrale à un moment où l'ennemi en avait tant besoin. Alors, il y a eu la répression, c'est pourquoi la grève n'a pas été facile. Mais c'est pourquoi aussi, ceux qui étaient partis sur des revendications avaient senti que les revendications, c'était l'aliment pour maintenir la grève, c'était l'assurance à se donner au départ, mais chacun pensait également que la grève aurait une autre allure qu'une grève quelconque. Et chacun pensait à l'armement. Par exemple, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a eu des difficultés. Les forces de police étaient entrées, mais les cheminots connaissaient évidemment beaucoup mieux la gare que les troupes allemandes, et ils se sont mis en devoir de déboulonner les rails au bon endroit. Ils étaient armés. Ils avaient un seul revolver pour les 30 et quelques qui déboulonnaient ces rails. Encore, on n'est pas très sûr qu'ils marchaient bien. Et avec eux, il y avait un dirigeant de l'Union des syndicats clandestines, c'était Santuc, qui d'ailleurs n'était pas un cheminot, mais était de la Corporation des Cures et Peaux. Alors il y a eu, avant l'insurrection, une série de mouvements. Il y a eu en effet, dans cette période pré-insurrectionnelle, si on peut l'appeler ainsi, une manifestation considérable de la RATP. Il faut dire que la RATP avait déjà fait pas mal de choses. Quand on parle de sabotage, on ne peut pas exclure de cette forme d'action les multiples arrêts du métro qui n'avaient l'air de rien, mais qui, au moment de l'arrivée au travail, mettaient pendant 20 minutes ou 40 minutes l'arrêt, j'allais dire le bazar, sur l'ensemble du métro, ce qui fait que des milliers d'heures de travail étaient perdues pour la machine de guerre allemande. Il y avait donc un grand mouvement à la RATP, mais là aussi, la même tactique a été utilisée que chez les cheminots. Les travailleurs se sont, disons, encouragés sur des questions revendicatives, et quelques jours avant l'insurrection, une manifestation qui, paraît-il, avait entre 1000 et 2000 participants, s'est déroulée sur la place de l'Hôtel de Ville en pleine occupation allemande. Et une délégation a été reçue par Tettinger, le chargé d'affaires des Allemands à l'Hôtel de Ville, et le compte-rendu de cette délégation a été fait par René Toirin et par Santuc sur la petite murette qui est devant l'Hôtel de Ville, en présence d'une manifestation de gars de la RATP. Il y avait eu également la grève des postiers. Et les PTT, c'est quand même un élément important dans une bataille. On ne peut pas le laisser de côté. Les postiers avaient interrompu les télécommunications des Allemands, mais avaient garanti les nôtres. Ce qui a une grande importance, puisque de fait, à quelques rares exceptions près, nous n'avons pas été coupés et nous avons pu utiliser le téléphone d'un PC à l'autre, d'une mairie à l'autre, de l'hôtel de ville aux mairies.
Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur Tollet, le décor est planté. Nous verrons demain ce que fut la première journée insurrectionnelle, le 19 août 1944.
France Culture vient de présenter 1940-1944, la résistance. Témoignages et documents pour servir l'histoire. Une suite d'émissions composées par Stanislas Fumet et Francis Crémieux. Les opinions exprimées au cours de ces émissions n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 août 1964. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an, ainsi que les précédents volets de la série, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.